السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، إخوة الإيمان، parmi les handicaps les plus nocifs pour le croyant, les erreurs les plus destructrices pour son bas monde et son au-delà, il y a les péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tout fils de Adam est pécheur. Et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Et les savants ont beaucoup parlé des effets dévastateurs des péchés et destructeurs, à l'instar du grand savant Mohammed ibn Abi Bakr, surnommé Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, dans son livre « Ad-Da'wa ad-Dawa ». Et beaucoup de gens reviennent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement dans ce mois béni de Ramadan. Et d'autres plus anciens encore, si ce n'est qu'il y a certaines pratiques, certaines habitudes que l'on peine à délaisser et à abandonner. C'est pour cela que ce sujet a la plus haute importance pour chaque musulman et chaque musulmane, à savoir les motivations qui poussent le serviteur à abandonner les péchés. Les motivations pour se libérer des péchés. Et parmi les meilleurs savants qui ont parlé de ce sujet, il y a ce grand savant, Abu Abdillah Muhammadu ibn Abi Bakr, ay ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, qui est décédé en 751 après l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Ce qui nous est demandé à la lecture et l'écoute de ce passage de son livre Madarij as-Salikin, c'est de noter chacun de ces points. Deuxièmement, de les comprendre. Troisièmement, de s'efforcer à les appliquer pour obtenir le but escompté, à savoir le délaissement et l'éloignement des péchés. Et enfin, la propagation au sein de nos proches et dans la communauté. Ma sha Allah, la quwwata illa billah. Bismillah. Qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, faslun wa amma taqwiyat ba'ith ad-din fa innahu yakunu bi umur. أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. ابن القيم رحمه الله تعالى dans ce chapitre, il nous dit ce qui renforce, quant à ce qui renforce la motivation pour préserver sa religion. Comment est-ce que tu préserves ta religion? Soit en faisant ce qui t'est commandé, soit en délaissant ce qui t'est interdit. Et ici, il va nous parler de quoi? Du délaissement de ce qui est interdit. Premièrement, ijlalullah tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma. Donc, la vénération d'Allah, immense et élevé soit-il, quant au fait de lui désobéir alors qu'il voit et entend. Alors qu'il voit et entend. Ton cœur doit témoigner de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa surveillance totale. Il voit tout, il entend tout. Alors ça doit nous empêcher alors ça doit nous empêcher d'avoir le penchant vers le péché. Ça doit nous empêcher d'avoir un penchant vers le péché. Ça, c'est le premier point. Que ton cœur témoigne de la grandeur et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de te dire, comment est-ce que je peux lui désobéir alors qu'il voit tout, alors qu'il entend tout. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Si ça, c'est une feuille qui ne va pas être jugée pour aller au paradis ou en enfer, que dire de nos œuvres et de nos paroles? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors que de la terre tout entière il ne fera qu'une poignée le jour de la résurrection. Quant aux cieux, il les pliera dans sa main droite. Exempt soit-il et élevé au-dessus de tout ce qui lui associe. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'azim, c'est l'immense. Il a l'attribut de l'azama, de l'immensité. Alors il doit être immensifié dans le cœur de chacun d'entre nous. Il doit être vénéré sur la langue et lors de la mention de chacun d'entre nous. Ce point doit nous éloigner de pencher vers le péché. Allah nous dit également, ça c'est dans Sourate Az-Zumar, il nous dit également, « Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara » وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِهَا مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُونَ اللَّهَ حَقَّ تَعْظِيمِ أَوْ حَقَّ عَظَمَتِهِ أَخْرَجَهُ التَّبَرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, qu'avez-vous à ne pas espérer en Allah vénération, alors qu'il vous a créé en plusieurs phases. Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset en disant, c'est-à-dire, qu'avez-vous à ne pas estimer, à ne pas vénérer Allah comme il devrait l'être? Comme il devrait l'être. Donc, avoir cela dans le cœur, et une des plus grandes causes, certains savants, comme Al-Allama Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, le savant des grands savants de cette époque a dit, c'est la plus grande cause pour ne pas désobéir à Allah. C'est le fait de le connaître à travers sa grandeur. Ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, religieux, ces signes universels, tous nous poussent à le connaître à travers sa science, à travers son omnipotence, à travers sa grandeur. Ça doit donc nous éloigner de cette désobéissance. Et cela peut même pénétrer le cœur d'une personne qui n'est pas musulmane. En entendant des signes d'Allah azza wa jal, en percevant de sa grandeur, à l'instar de Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, alors qu'il n'était pas encore musulman, il écoute la prière du Maghrib du prophète, alayhi salatu wassalam, qui récite, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, am khalaqu samawati wal ard, bal la yuqinun, am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Il a dit, Kada qalbi an yatir. Wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. À l'écoute de ce verset, il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Et ce fut la première fois où la foi s'est installée dans mon cœur. Allahu Akbar. Il n'était pas musulman, c'était un mushrik. Il a entendu le Coran. Ça l'a guidé à l'islam. Ça l'a guidé à vénérer Allah. Ça l'a guidé à unifier Allah d'un culte sincère et prononcer l'attestation de foi. S'il en est ainsi, pour celui qui avait le cœur mort de par le politisme, à plus forte raison, ikhwat al-iman, si nous, on a tawhid, sinon on est déjà croyants. Mais ces gens-là, sahaba, lorsqu'ils ont goûté aux délices de la foi, ils ont dépassé. Ils se sont élevés parce qu'ils ont vénéré Allah Azza wa Jalla, ont suivi véritablement le prophète alayhi salatu wa salam. Et comme le disait Bishr ibn al-Harith, comme on peut trouver cela dans Tafsir ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. Si les gens avaient véritablement médité sur la grandeur d'Allah le Très-Haut, ils ne lui auraient pas désobéi. Ils ne lui auraient pas désobéi. Voici la première cause. Voici la première cause qui pousse le serviteur à trouver motivation suffisante pour abandonner le péché et pour ne pas tomber dans le péché. Al-mashhadu thani, la deuxième source de motivation. Mashhadu mahabbatihi subhanahu. فيترك معصيته محبة له فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit la deuxième source de motivation est l'amour d'Allah. Est l'amour d'Allah. Le fait de contempler et de témoigner de cela dans ton cœur pousse au délaissement du péché. C'est compris? Le fait d'avoir cela dans le cœur, le fait de contempler dans ton cœur l'amour que tu témoignes à Allah subhanahu wa ta'ala, ça pousse à délaisser sa désobéissance. Car certes, celui qui aime et envers son bien-aimé, obéissant. Car certes, celui qui aime demeure envers son bien-aimé, obéissant. Et sachez que le meilleur abandon et le meilleur délaissement, c'est le délaissement de l'amoureux. C'est le délaissement de celui qui aime. C'est le délaissement qui est fait par amour. C'est le meilleur abandon, c'est le meilleur délaissement. Tout comme la meilleure obéissance, c'est l'obéissance qui est faite par amour. Et il y a une énorme distinction et de grandes disparités entre le délaissement fait par amour et le délaissement fait par crainte, par peur. Tout comme il y a une grande différence entre l'obéissance faite par amour et l'obéissance faite par crainte et peur. Voici la deuxième source de motivation, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Par amour, tu ne veux pas lui désobéir. Par amour, tu fuis le péché. Dans sourate al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, leur amour pour Allah, il est plus ardent, il est plus fort, parce qu'il est sincère, parce qu'il n'est pas partagé entre Allah et les fausses divinités. Le croyant doit remplir son cœur de l'amour d'Allah Azza wa Jal et veiller à le développer. Et veiller à le développer. Ainsi, cela l'éloignera des causes de la colère d'Allah. Parce qu'il sait qu'en désobéissant à Allah Azza wa Jal, il va diminuer l'amour qu'il lui porte. Et il va diminuer également l'amour qu'Allah Azza wa Jal a pour lui en tant que musulman croyant. Il va diminuer l'amour qu'Allah Azza wa Jal a pour lui en tant que musulman croyant. Et en se complaisant dans le péché, il va perdre proportionnellement, il perdra sa part d'amour chez Allah subhanahu wa ta'ala. En somme, l'amour véridique pousse le serviteur à se soumettre aux ordres d'Allah, et à abandonner sa désobéissance et à l'éloignement de tout ce qui cause son courroux et sa colère. Allah nous dit dans sourate Ali Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, c'est-à-dire au messager d'Allah, si vous aimez Allah, c'est-à-dire véritablement, sincèrement, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ça, c'est un signe de l'amour véridique. C'est un signe de l'amour sincère, la soumission aux ordres, l'abandon des interdits. Et comme il fut dit, تَعْشِ الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. Et comme il fut dit, tu désobéis à la divinité tout en prétendant l'aimer. Ceci est un raisonnement étrange. Si ton amour était sincère et véridique pour lui, tu lui obéirais. Car l'amoureux est toujours obéissant envers son bien-aimé. Donc un des grands signes de la véracité de ton amour pour Allah Azza wa Jal, c'est le fait de lui obéir et de t'éloigner de sa désobéissance. Al-Mashhad al-Thalith, la troisième source de motivation poussant le serviteur à abandonner le péché. Mashhad al-Ni'mati wal-Ihsan, c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah et sa gratitude. La reconnaissance des bienfaits et des grâces d'Allah en témoignant sa gratitude. فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يُعَامِلُ بِالْإِسَاءَةِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا لَئِيمُ النَّاسِ فَيَمْنَعُهُ مَشْهَدُ إِحْسَانِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ حَيَاءً مِنْ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ اللَّهِ وَإِنْعَامُهُ نَازِلًا إِلَيْهِ وَمُخَالَفَاتُهُ وَمَعَاصِيهِ وَقَبَائِحُهُ صَاعِدَةً إِلَى رَبِّهِ فَمَلَكٌ يَنْزِلُ بِهَذَا أَيْ نِعَمْ وَمَلَكٌ يَعْرُجُ بِهَذَا أَيْ ذُنُوبْ فَأَقْبِحْ بِهَا مِنْ مُقَابَلَةٍ. La troisième source de motivation est de témoigner des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de ses grâces envers nous. Contempler les bienfaits d'Allah, sa générosité, ses largesses, na'am, pousse le serviteur à avoir honte de répondre à la bienfaisance par une désobéissance. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit certes, le noble, celui qui a des nobles caractères, ne répond pas à une bienfaisance reçue en avançant du mal, en faisant du mal. Mais celui qui se comporte comme cela est la personne qui est dans la bassesse, c'est la personne qui est vile. Attester des bienfaits d'Allah et de ses grâces, na'am, pousse le serviteur à ne pas lui désobéir par pudeur envers lui. Comment est-ce que le bien d'Allah, les bienfaits d'Allah pourraient descendre sur lui et ses désobéissances et ses péchés remonter vers lui? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur lui ses grâces et ses bienfaits et lui il fait remonter vers Allah azza wa jal ses péchés et ses désobéissances, naam, et ses mauvaises actions. Un ange qui descend avec ceci et un ange qui remonte avec cela. C'est-à-dire un ange qui descend avec la rahma d'Allah, avec le bien, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Na'am. Et un autre qui remonte en réponse avec quoi? Avec les péchés du serviteur, avec les désobéissances du serviteur. فَأَقْبِحْ بِهَا مِنْ مُقَابَلَةٍ. فَأَقْبِحْ بِهَا, c'est une expression qui adresse un blâme. Na'am. Oh, comme est laide cette réponse. Oh, comme est laide, na'am, est blâmable ce retour, na'am. Oustad Abdel Malik, kaif tu tarjim afidna, na'am, barakallah fik. Ça, c'est la troisième source de motivation. Ressens les multitudes de bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui te touchent. Avant même que tu les demandes, tu es né. Tu n'étais rien, tu étais mort, tu es vivant. Tu respires, tu bois, tu manges. Probablement tu marches. Naam, tous ces bienfaits, qui pourrait les énumérer? Allah nous dit dans sourate Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez d'énumérer, de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Naam, vous ne pourrez le faire. Et Ash-Shir Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre At-Tawwabin l'histoire d'Ibrahim Adham lorsqu'un homme est venu l'interroger. Et il lui a dit Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'arid alayya ma yakunu laha zajira mustanqidhan li qalbi. Ô Aba Ishaq, mon âme penche vers le péché. Propose-lui ce qui la fera se réveiller, ce qui la secouera et la réveillera. Naam, afin que mon cœur se réveille, dis-lui ce qu'il faut, exhorte-la. Il lui a dit, je vais te proposer 5 choses. Je vais te proposer 5 choses. Si tu réussis à les appliquer, alors aucun péché ne te nuira par la suite. Naam. Et aucun délice, donc c'est-à-dire dans le haram, ne t'anéantira. Il lui a dit, donne-moi. Il lui a dit la première. إِذَا رَدْتَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَ. Si tu veux désobéir à Allah, puissant et élevé soit-il, ne mange pas de sa subsistance. Débrouille-toi pour manger une subsistance, qui ne sera pas la créature d'Allah. Il lui a dit, d'où est-ce que je pourrais manger alors? Alors que tout ce qu'il y a de l'est à l'ouest fait partie de sa subsistance. Il lui a dit, Ahada, afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'si. Ou antenne. Est-ce qu'il convient de manger de sa subsistance pour ensuite lui désobéir? Et il lui a dit, Hati thaniya. Donne-moi la deuxième. Il lui a dit, وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَهُ فَلَا تَسْكُنْ شَيْئًا مِنْ بِلَادِهِ. Si tu veux lui désobéir, ne réside pas dans un endroit qui fait partie de ses terres. Il lui a dit, mais celle-ci est encore plus grande que la précédente. هَذَا أَعْظَمْ مِنَ الْأُولَى. إِذَا كَانَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهُ فَأَيْنَ أَسْكُنْ. Si tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, ou bien l'Orient et l'Occident lui appartient, où est-ce que je pourrais résider? Il lui a dit, هَذَا فَيَحْسُنُ أَنْ تَأْكُلَ رِزْقَهُ وَتَسْكُنَ بِلَادَهُ وَتَعْصِي. Ô un tel, est-ce qu'il est convenable de manger de sa subsistance, de vivre sur ses terres et ensuite de lui désobéir? Il lui a dit, donne-moi la troisième. Il lui a dit, دَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَهُ وَأَنْتَ تَحْتَ رِزْقَهُ وَأَنْتَ تَحْتَ رِزْقِهِ وَفِي بِلَادِهِ فَانْظُرْ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ فِيهِ مُبَارِزًا لَهُ فَعْصِهِ فِيهِ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La troisième, si tu veux lui désobéir, alors que tu manges de sa subsistance et que tu résides sur ses terres, cherche un endroit sur terre où il ne te verra pas t'afficher en lui désobéissant. Cherche un lieu où il ne te verra pas t'afficher en lui désobéissant et désobéis-lui dans cet endroit-là. Il lui a dit, كَيْفَ هَذَا وَهُمَا طَالِعُونَ عَلَى مَا فِي السَّرَائِرِ. Comment est-ce que je pourrais faire ça alors qu'ils voient même les récesses de nos personnes, ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu du cœur. Ya hadha fa yahsun an ta'kula rizqa wa taskunu bilada wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bi. Il lui a dit, Wantel, est-ce qu'il est convenable que tu manges de sa subsistance, tu résides sur ses terres, tu lui désobéis et il te voit et il voit ce que tu fais apparaître? Il lui a dit, donne-moi la quatrième. Il lui a dit, إِذَا جَاءَكَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحَكَ فَقُلْ لَهُ أَخِّرْنِي حَتَّى أَتُوبَ تَوْبَةً نَصُوحًا وَأَعْمَلَ لِلَّهِ عَمَلًا صَالِحًا. Il lui a dit, lorsque l'ange de la mort viendra pour saisir ton âme, dis-lui, laisse-moi du répit, laisse-moi un temps afin que je me repente d'un repentir sincère et que je fasse de bonnes œuvres. Il lui a dit, Il n'acceptera pas cela de moi. Il lui a dit, Ya hada, afa anta ida, Ya hada, fa anta ida lam taqdir, an tadfa anka al-mauta li tatouba. وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الإخلاص عفوا فكيف ترجو وجه الخلاص. Il lui a dit, oh un tel, si tu sais que tu n'as pas la capacité de repousser de toi la mort afin de pouvoir te repentir avant, et que tu sais que lorsqu'il viendra, qu'elle viendra, tu, elle ne sera, il n'y aura pas de répit, comment tu peux espérer avec cela t'en sortir? Il lui a dit, donne-moi la cinquième. إِذَا جَاءَتْكَ الزَّبَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَأْخُذُوكَ إِلَى النَّارِ فَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمْ. Lorsque les anges chargés de châtier le serviteur le jour de la résurrection ou de les emmener en enfer viendront, ne pars pas avec eux. Ne les suis pas. Il a dit, لَا يَدَعُونَنِي وَلَا يَقْبَلُونَ مِنِّي. Ils ne me laisseront pas, ils n'accepteront pas cela de moi. Il lui a dit, فَكَيْفَ تَرْجُ النَّجَاةَ إِذَنْ. Comment après tout cela tu peux espérer obtenir le salut? فَقَالَ لَهُ يَا إِبْرَاهِيمُ حَسْبِي حَسْبِي أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. Il lui a dit, oh Ibrahim, cela me suffit, je demande pardon à Allah et je me repens, je retourne vers lui. Subhanallah. De témoigner des bienfaits d'Allah Azza wa Jal a été la cause pour ce serviteur à qui Allah Azza wa Jal a voulu le bien de sortir du péché et de fuir, de sortir du péché passé et de fuir le péché présent. Al-Khamis mashhadul fawat wa huwa ma yafutuhu bi ma'siyatin min khayri ad-dunya wal akhirah. وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال بعض الصحابة ينزع منه الإيمان حتى ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسي مثل الظلة فإن تاب رجع إليه وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص فإن تاب لبسه ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزناة في التنور عراة لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعادت تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار إنا لله وإنا إليه راجعون. La cinquième source de عفوان أحسنت. J'ai sauté la quatrième. جزاك الله خيرا. الرابع مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصية غضب وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. La quatrième source de motivation est de témoigner de la colère et de la vengeance d'Allah. Est de témoigner de la colère et de la vengeance d'Allah. Car lorsque le serviteur ose désobéir à son Seigneur, il se met en colère. Et quand il se met en colère, rien ne peut contenir sa colère, à plus forte raison, par un faible serviteur. Par un faible serviteur. Donc, le fait d'attester et de témoigner de la colère d'Allah et de sa vengeance, c'est une cause pour fuir le péché à venir Naam, présent et à venir, et pour délaisser le péché, passé. Lorsque le serviteur pêche, Allah subhanahu wa ta'ala lui laisse un répit. Il lui donne de ses bienfaits. Il lui rappelle sa grandeur. Il peut lui mettre un malheur sur le chemin. Il peut. Tout ça par pitié envers lui, par miséricorde. Parce qu'Allah a le choix entre le châtier et lui faire miséricorde. Mais Allah préfère lui faire miséricorde. Et il inscrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus de son trône, « Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde précède et devance ma colère. » Mais si le serviteur reste, si le serviteur continue, si le serviteur persiste, naam, Allah Azza wa Jal se met en colère contre lui. Et Allah Azza wa Jal peut se venger. Donc d'avoir cela présent à l'esprit et dans le cœur, ça pousse le serviteur à fuir le péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans surah Az-Zukhruf, « Falamma asafuna intaqamna minhum. » Naam. Lorsqu'ils nous mirent fortement en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Falamma asafuna, al-asaf, fi lughati al-arab, lahu ma'nayan. Amma al-ma'na al-oula, fahuwa shiddatu al-ghadab. Wa hadha nuthbituhu lillahi azza wa jal sifatan. كاملة والمعنى الثاني شدة الحزن نعم وهذه ليست من صفات الله سبحانه وتعالى لأنها تعتبر نقصا في حقه donc الأسف fait partie des attributs parfaits d'Allah سبحانه وتعالى et son sens est la forte colère donc on voit dans ce verset que lorsqu'ils mirent en colère Allah Azza wa Jal fortement, il s'est vengé d'eux. Par conséquent, il les a punis. Naam. Donc celui qui penche vers le péché, qu'il se rappelle des conséquences, qu'il se rappelle la colère d'Allah, qu'il se rappelle la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque s'expose à la colère d'Allah, celui-là aura un châtiment terrible. Comme on voit dans Sourate Ibrahim. Le serviteur doit donc être vigilant face à la colère d'Allah. Vigilant face à la désobéissance de son Seigneur, de son Maître, subhanahu wa ta'ala. Al-mashhad al-khamis, mashhad al-fawat. Fa'innahu, ou wa huwa, ما يفوت من المعصية من خير الدنيا والآخرة وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. La cinquième source de motivation poussant à l'abandon des péchés est مشهد الفوات. C'est témoigner de ce qu'on a à perdre en désobéissant à Allah. Se rendre compte de ce qu'on a à perdre en désobéissant à Allah. À savoir, tout ce que tu as à perdre dans ce bas monde et dans l'au-delà à cause de la désobéissance. Ajoute à cela tout ce que tu obtiendras comme appellation blâmable et méprisable, que ce soit attesté par la raison, que ce soit attesté par la religion, que ce soit attesté dans les us et coutumes, ou les habitudes déjà. Ajoute à cela, tout ce que tu vas perdre comme appellation louable, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la raison, que ce soit dans les habitudes déjà. Et il suffit de penser à une seule chose, à un seul risque, à savoir la perte d'une partie de la foi. À savoir la perte de la foi, ou la perte d'une partie de la foi. Cette foi qui, un peu de celle-ci, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, est meilleure que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, te dit en faisant un péché, tu vas perdre de la foi. tout en sachant que le poids d'une petite fourmi de foi que tu as avec toi est meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Un nombre de fois décuplé. Il dit un nombre de fois décuplé. Comment alors est-ce que tu pourrais vendre de cette foi-là pour un plaisir mondain, éphémère, c'est-à-dire qui lui disparaîtra, alors que restera le mal, le péché, son plaisir disparaîtra, mais le mal et ses conséquences, eux, perdureront. Le délice ou le plaisir disparaîtra et le malheur restera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fornicateur ne fornique pas au moment où il fornique tout en étant croyant. Et certains compagnons ont dit, on le déshabille de la foi. Naam, où on va dire, on lui retire, on lui arrache la foi jusqu'à ce qu'elle reste comme une ombre. Naam, ou bien un nuage au-dessus de sa tête. Fa'in taba raja. Et s'il se repent, alors sa foi reviendra. Certains parmi les pieux prédécesseurs qui ont suivi la génération d'après les compagnons ont dit, on lui retire la foi, tout comme on lui retire son vêtement. S'il se repent, on le vêtit à nouveau. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu, comme c'est mentionné dans le hadith dans le Sahih Bukhari, les fornicateurs dans un four. Ils étaient nus, tout comme ils se sont dénudés de la foi dans ce bas monde. Et le four de plaisir et de délice par lequel ils étaient attisés dans ce bas monde et qui habitait leur cœur deviendra un four réel, dans le châtiment de l'au-delà. Et ils seront brûlés avec le feu. Quand on dit dans l'au-delà, ça commence par le châtiment de la tombe. Al-amru al-khamis. Donc, c'est le fait de penser à tout le bien et tous les risques que tu prends. Même le terme risque n'est pas adéquat. Il y a ni tout ce à quoi tu t'exposes. Tout ce à quoi on s'expose et tout ce qu'on perd comme bienfait en commettant le péché. Le hadith la yazni zani, il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Naam. Donc, il va perdre les appellations louables comme le croyant, comme le pieux, comme l'homme de la bienfaisance. Et il va prendre à la place l'appellation de pervers, l'appellation de pécheur, l'appellation de désobéissant. Naam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ça, c'est dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il peut perdre? Il peut perdre ce qu'il aura de plus cher à ce moment-là, alors qu'il en aura jamais eu autant besoin. Les hasanat. Parce qu'on va lui dire, ramène ta pesée, ramène ce que tu as à mettre sur les plateaux de la balance. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté par Ibn Majah, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhima, nous dit, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyama bi hasanatin amthali jibali tihamati bida. Assurément, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec beaucoup de hasanat semblables à la montagne de Tihama. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah rendra tout cela poussière éparpillée. Montagne de hasanat qui deviendra poussière. قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَلَّا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ. ثَوْبَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ a dit au messager d'Allah, décris-les-nous. Ô messager d'Allah, décris-les-nous, expose-les-nous, de peur d'en faire partie sans le savoir. Il a dit, ama innahum ikhwanukum min jildatikum ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimillahi intahakuha. Sachez que ils font partie de vos frères. Ils ont la même peau que vous. Et ils prennent la même part de nuit que vous prenez. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils prient la nuit. Allahu Akbar. Ce sont des gens qui, dans l'année, ils ont une part de prière dans la nuit, une adoration d'Allah dans la nuit. Cependant, ce sont des gens qui, dès lors qu'ils se retrouvent seuls, commettent les péchés. Ils désobéissent à Allah. Ils désobéissent à Allah. En public, quand ils sont avec les frères, quand ils sont à la mosquée, quand ils sont en cours, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sont chez la belle famille, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'il y a une assise avec les chouurs, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'il y a les prédicateurs, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sont à la Umra, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Hein? Mais lorsqu'ils sont seuls devant leur ordinateur, entre quatre murs dans leur chambre, ils désobéissent à Allah. Ils vont dans des sites haram. Lorsqu'ils sont en privé, ils font du haram. Lorsqu'il fait du commerce en public, il craint Allah. Lorsqu'il est seul, il trahit, il triche. Il vole, il ment. Il désobéit à Allah. Ces gens-là, yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal va annuler leurs œuvres et les rendre poussière éparpillée. Est-ce qu'on n'a pas peur tous d'être ce serviteur-là? Est-ce que ça n'est pas un électrochoc suffisant pour chacun d'entre nous afin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et dire, Ya Allah, je ne veux pas perdre ce par quoi tu m'as anobli, la foi. Ya Allah, je ne veux pas perdre ce par quoi tu m'as fait exister véritablement, ta connaissance, le tawhid, ton amour, ta crainte. Ya Allah, je ne veux pas perdre la fraternité et sa concrétisation que tu m'as donnée avec mes frères en Allah Azzawajal, de toute origine diverse et variée. Est-ce que le temps n'est pas venu pour qu'on retourne vers Allah Azzawajal et qu'on fuit ces péchés-là, de peur de perdre tout ça? Est-ce que l'enfant et le jeune se voient à l'abri? Il se dit, je fais mes péchés jusqu'à arriver à tel âge, ensuite je fais le hajj, on m'enlève tout ça. Ne sais-tu pas que lorsque la graine est plantée, na'am, et que les cultures commencent à sortir, parfois, la fleur et la plante meurent avant qu'on puisse en retirer le grain. Ne sais-tu pas que lorsque l'arbre sort et pousse, des fois il meurt avant qu'on arrive à la saison de la récolte? Ne te sens pas à l'abri parce que tu es jeune. La mort, elle ne fait aucune distinction entre l'enfant et la personne âgée. Ne te sens pas à l'abri parce que tu es en bonne santé. La mort ne fait aucune distinction entre celui qui est en bonne santé et celui qui est malade. Le médecin qui exerce 20 ans à soigner les gens, Allah récupère son âme. Et le malade qui était censé être en phase terminale, à qui on a dit il reste une semaine à vivre, il est encore là. Et c'est lui qui fait salat al-janaza sur ses enfants. Fallah Allah, fi rujou' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada rahimahullah ta'ala disait: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل فإن الخير ينسخ الشر فإن الشر وإن الشر ينسخ الخير. Qatada rahimahullah ta'ala disait: celui qui a la capacité de ne pas annuler une bonne œuvre à cause d'une mauvaise action, qu'il le fasse. Car certes, le bien annule le mal, mais certes, le mal annule aussi le bien. Apporté par At-Tabari, rahimahullah ta'ala, en Jami' al-Bayan. Ça, c'est un résumé de sa parole. Al-Mashhadu Sadis, la sixième cause qui pousse au délaissement des péchés, Mashhadu al-Qahri wa-Zafar. Fa-inna qahra al-Shahwati wa-Zafara bi-Shaytani la halawatun wa-Masarratun wa-Farhatun inda من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين وأحلى موقعا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite une source de motivation qui, wallahi, est des plus subtiles. Qui, wallahi, nous montre les profondeurs de la science et de la compréhension de la religion qu'Allah Azza wa Jal lui avait accordée. Il nous dit, la sixième source de motivation, c'est attester de la domination et de la prise sur ton ennemi. Le fait de réussir à dominer ton désir et ta passion et de capturer ton diable te procurera un délice, un plaisir et une joie qui, chez ceux qui l'ont goûté, procure un plaisir plus intense et plus grand que le fait d'avoir capturé son ennemi déclaré parmi les humains. Tu vois, lorsqu'il y a une guerre et que ton ennemi n'a pour objectif que de t'anéantir et de t'ôter la vie, la plus grande joie de celui qui se trouve en face, c'est quoi? C'est d'avoir réussi à déjouer son plan et de l'avoir capturé. N'est-ce pas? Un simple moustique, hein, qui te rend difficile ta soirée, qui te pique et boit ton sang, hein, parfois tu lui donnes 10 minutes de ta vie, 10 minutes de ta nuit, tu le cherches, tu prends le téléphone, tu mets la lumière, tu le poursuis, tu le chasses, et lorsque tu réussis à voir la trace de sang sur le mur, tu es heureux. Vous connaissez ça ou pas? Hein? Beaucoup d'entre nous avons vécu ce moment-là. Subhanallah, c'est un moustique. C'est une douleur éphémère et passagère qui n'a aucune incidence sur ta vie. Hein? La plupart du temps. Que dire alors de celui qui est en face? Il essayait d'attenter à ta vie. Et toi, t'as réussi à le capturer, à le faire prisonnier. Vois-tu la joie? Tu t'es sauvé la vie. Hein? Tu t'es sauvé la vie et tu l'as battu et ainsi de suite. Cette joie-là, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, nous dit, elle est, cette joie d'avoir réussi à supporter la passion, supporter à pas tomber dans le péché, avoir battu ton shaitan qui ne t'a pas fait tomber dans le péché, elle est encore plus grande que cette situation-là. Elle est encore plus grande que cette situation-là, il a dit, chez ceux qui l'ont goûté. Et il dit, فَأَحْمَدُ عَاقِبَةً. Et aussi, elle a une meilleure finalité. وَهُوَ كَعَاقِبَةِ شُرْبِ الدَّوَاءِ النَّافِعِ الَّذِي أَزَالَ دَاءَ الْجَسَدِ وَأَعَادَهُ إِلَى صِحَّتِهِ وَاعْتِدَالِهِ. Elle est semblable à la finalité de celui qui a bu un médicament bénéfique qui, par cette cause, a fait disparaître de son corps la maladie et a restauré son corps dans sa pleine santé et capacité comme il était auparavant. Vous voyez, lorsque on est malade, on est harassé, on est à bout de force, et que tu fais les causes, et que tu te fais ruqya, et que tu fais dua, tu vois le jour où tu ressors et tu remets ton premier pied dehors, et que tu revois le soleil et l'air sur ton corps, sur ton visage, tu vois cette joie de retourner au masjid, à Salat al-Fajr, à Salat al-Isha, et de voir tes frères et de revenir dans les assises et les cours. Hein? Eh ben, c'est une joie comme cela. Ibn Qayyim te dit, c'est une joie comme cela. Naam. Le shaitan, c'est ton ennemi déclaré. Et il a pris l'engagement de tous nous ramener en enfer avec lui, sauf les serviteurs qu'Allah Azzawajal va choisir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhim, inna al-mu'mina la yundi shayatinahu kama yundi أحدكم بعيره في السفر. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, certes, le croyant épuise et affaiblit ses diables comme l'un d'entre vous épuise et affaiblit son chameau en voyage. Tu vois, lorsque le chameau est sur le début, hein, il est fort, il est vigoureux et il porte ta personne plus tes provisions. Mais est-ce que une heure après, deux heures après, il a la même vigueur, la même force? Non, ça, il est affaibli. Eh ben, toi aussi, lorsque tu combats le shaitan, en faisant des bonnes œuvres, alors qu'il a voulu te les faire abandonner, quand tu combats le shaitan, en délaissant le haram, alors qu'il a voulu t'y faire tomber, eh ben, tu l'affaiblis au fur et à mesure. Plus tu fais du khayr, plus tu délaisses du char, plus tu affaiblis ce shaitan. Plus tu affaiblis ce shaitan. Barakallahu fikum. Et le shaitan, أَحَدُ مَصْدَرَيْ شَرْ مَصْدَرَى الشَّرْ عِنْدَنَا أَمْرَان. أما الأول النفس وأما الثاني الشيطان. وقد جمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في دعائه، فقال عليه الصلاة والسلام أو علمه أبا بكر الصديق لما سأله دعاء، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه أو وشركه من شر الشيطان وشركه أو ومن شر الشيطان وشركه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Abu Bakr qui lui a demandé de lui enseigner une dua qu'il pourra, par laquelle il pourra invoquer Allah Azza wa Jal dans sa prière, ou matin et soir. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, arrivé au matin et arrivé au soir, et lorsque tu vas te coucher. Regardez la générosité. Karamun Nabi sallam fi ta'alim. Hein? Ayyuha al-asatida. Karamun Nabi sallam fi ta'alim. Abu Bakr, ma talabahu kulla dhalik. طلبه في الصلاة أو في أذكار الصباح والمساء، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثالثا وهو من أذكار النوم. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit ô Allah créateur des cieux et de la terre, connaisseur des choses cachées et apparentes, le seigneur de toutes choses et le maître, j'atteste qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est toi. Je cherche refuge auprès de toi, écoutez bien. Les causes du mal sont au nombre de deux. Les bases du mal sont au nombre de deux. Écoutez la dua. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, de ma personne, et contre le mal du diable. Ainsi que son polythéisme, ou bien ses filets, pour capturer les gens. Dis-le, قُلْهَا إِذَا صَبَحْتُ. Dis cela lorsque tu arrives au matin, c'est-à-dire après le fajr, avant le lever du soleil. وَإِذَا أَمْسَيْتَ c'est-à-dire après l'asr, avant le coucher du soleil. وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ et lorsque tu prends ta couche pour dormir. Et on voit ici la générosité dans l'enseignement, la générosité dans la propagation du ilm, comme l'ont dit les savants dans l'explication du hadith. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a dit مَصْدَرَيْ الشَّرْ وَهُمَا et ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مَصْدَرَيْ الشَّرْ وَهُمَا النَّفْس وَالشَّيْطَان وذكر مورده أو مورديه ونهايتيه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a mentionné les deux bases du mal, le nefs et le shaitan, les deux conduits et les deux finalités. Donc, le mal provient soit de l'âme qui appelle au mal, soit du diable, n'est-ce pas? طيب. Ce mal-là, qui part de ta personne, elle peut toucher soit ta propre personne, soit ton frère. Naam, elle peut toucher soit ta propre personne, soit ton frère. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, a invoqué en disant, an ajurrahu ala nafsi, ou ala akhi, ou ala muslim. Il a cherché refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre le fait que ce mal touche sa propre personne ou qu'il touche son frère musulman. Donc cette demande de préservation, elle est totale, elle est parfaite. Elle traite la base et elle traite la finalité. فَالْعَبْدُ إِذَا اسْتَحْضَرَ هَذَا الْمَعْنَى تَرَكَ الْمَعْصِيَةَ قَهْرًا لِنَفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ وَإِرْغَامًا لِعَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ واعتزازا بطاعة الله عز وجل فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة بارك الله فيكم. المشهد السابع إخوة الإيمان المشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه به من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها ليوازي بين العوض ليوازن بين العوض والمعوض فأيهما أو ليوازن بين العوض بين العوض والمعوض فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que la septième source de motivation pour délaisser les péchés est de témoigner du remplacement. Le témoignage du remplacement. De quel remplacement on parle? Il s'agit de ce qu'Allah Azzawajal a promis à celui qui délaisse le péché par crainte d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal lui remplacera par meilleur. Celui qui témoigne et qui a présent dans son cœur ce grand remplacement, na'am, ça lui procurera une source de motivation suffisante pour abandonner le péché. Il s'agit de ce qu'Allah subhanahu a promis d'accorder en remplacement à la place de celui qui abandonne le péché pour lui. Soulignez bien cette cause, la sincérité, l'abandon du péché, pas parce qu'il n'en a plus besoin, pas parce qu'il n'en veut plus, non, par peur d'Allah, par crainte d'Allah. Il interdit à son âme sa passion. Alors pesez entre la chose qu'on délaisse et la chose par laquelle elle sera remplacée. Pesez et jugez et que chacun choisisse pour lui ce qu'il agrée. Ce qu'il agrée. Celui qui délaisse une chose par peur d'Allah, par crainte de son châtiment, à la recherche de son agrément, pour préserver sa foi et l'entretenir, et Allah Azza wa Jal lui accordera un énorme délice et une allégresse à la place. Il lui accordera une bénédiction dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate An-Nahl, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, qu'il soit un homme ou une femme, nous le rétribuerons selon les meilleures œuvres de ce qu'il faisait, ou plutôt, on lui fera vivre une bonne vie. On lui fera vivre une bonne vie. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est l'apaisement de l'âme. Ça, c'est dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla lui remplace, il le récompense pour sa foi par le bonheur. Par le bonheur, par les délices. Ça, c'est dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, on le rétribuera selon les meilleures œuvres qu'il faisait. Donc, dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah Azza wa Jalla lui remplace par meilleur. Dans Sourate An-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla nous dit: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura interdit à son âme la passion, certes le paradis sera sa demeure, sera sa finalité. Donc il a délaissé pour Allah une chose, Allah lui remplace par meilleur, lui remplace par le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءً لِلَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ. Tu ne délaisseras pas une chose par piété envers Allah, par crainte d'Allah, sans qu'Allah t'accorde meilleur que cela. Sans qu'Allah t'accorde meilleur que cela. Une fois, j'ai assisté à un cours du prédicateur, mon frère bien-aimé, le frère Sadaq Abu Yahya, hafidahullah ta'ala. Et il a mentionné ce hadith. Et la première fois, pour remonter plus loin, si vous permettez, que j'ai entendu ce hadith, c'est dans le marquez de Cheikh Mokbil, rahimahullah ta'ala, après la prière du Dhuhr, et on étudiait son livre, na'am, qu'il a réuni, les hadiths qu'il a réunis sur les conditions de Al-Bukhari et Muslim, mais qui ne sont ni dans Sahih al-Bukhari ni dans Sahih Muslim. Al-Sahih mimma laysa fi madha yani مما ليس في صحيحين. الجامع الصحيح مما ليس في صحيحين. نعم. Et il y a aussi le musnad. Et on entendait toujours cette expression-là, ce hadith, mais mentionné sans les termes. نعم. Et le shir hadahullah a cité ce hadith. نعم. Et ce fut la première fois où que j'entendais le terme vraiment comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a quelques années, pour revenir sur mon propos, alhamdoulillah, j'assistais à une conférence de mon frère, le prédicateur Sadaq Abu Yahya wafaqahullahu ta'ala. Et il a cité ce hadith. Et il a dit une chose et j'étais dans cette chose. قال وكثير من الناس يظنون أن العوض إنما يختصر على الأمر الدنيوي بمعنى تترك العمل المحرم وكنت تربح مثلا تكتسب مثلا 1,000 يورو فبترك هذا المحرم فستكتسب 2,000 مثلا والأمر ليس كذلك بل إن الله سبحانه وتعالى يعوض بتركك هذا المحرم من محبته والأنس به ولذة الطاعة ولذة ترك المعصية أضعافا كثيرة ثم من الأمور الدنيوية وهكذا استرسل في الكلام فكان من خير ما سمعت منه جزاه الله خير. Et le frère Sadaq faisait le cours, une conférence, je ne me remémore plus le titre, et il a cité ce hadith. Puis il a dit, et j'étais concerné. Parce que quand tu assistes à un cours, il faut que tu cherches ta réforme à toi. Il faut que tu cherches ta réforme. Naam. Il faut pas que tu écoutes et que tu dis, ah oui, ah, comme un tel qui a ce défaut. Ou tu écoutes la khutba et tu dis, ah oui, comme un tel. Non, pense à toi. Cherche en toi. Tout ce qu'on dit comme bien, si tu trouves sur toi, remercie Allah, c'est grâce à lui. Et demande-lui le raffermissement. Et tout ce que tu trouves comme défaut, délaisse-le et fais stirfar et fais dua pour qu'Allah t'en sauve. Puis remercie celui qui a été la cause. Barakallahu fik. Donc il a dit, certains pensent, et moi j'en faisais partie, que Allah te remplacera par mieux, c'est-à-dire tu étais dans un haram qui te rapportait par exemple 1000 euros. En l'abandonnant, Allah va te donner 2000 euros, c'est ça le remplacement. Mais non, c'est pas tu délaisses une chose, on te la multiplie dans le halal. Parmi les choses de dunya, le sens est beaucoup plus profond, le sens est beaucoup plus poignant, le sens est beaucoup plus riche, ikhwat al-iman. Allah azawajal te remplace par meilleur. Il te donne le délice de la foi. Il te remplace par meilleur. Il te augmente son amour pour lui. Il te remplace par meilleur. Il fait que tu te sentes proche de lui. Il te remplace par meilleur. Il te donne, il décuple son bien, sa grâce sur toi, la foi, la piété, sa connaissance, la science. Il repousse de toi un malheur qui était sur ton chemin. Hein? Chacun de ces bienfaits par lesquels on t'a remplacé cela est meilleur que ce bas monde et ce qu'il renferme. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fajazahu Allahu khayran. Le المشهد الثامن مشهد المعية مشهد المعية وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر لآخره فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام نائم إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit la huitième source de motivation poussant au délaissement et à l'abandon du péché. Il s'agit de al-ma'iyya, le fait d'être avec Allah. Le fait d'être avec Allah en abandonnant le péché, tu t'es avec Allah. Naam, ou plutôt, plus précisément, Allah est avec toi. Astaghfirullah. C'est bien mieux dit. Et c'est le terme Et sa traduction exacte, Allah est avec toi. Allah est avec toi. Et le fait qu'Allah soit avec toi se divise en deux. Il y a le fait qu'Allah soit avec toi de manière générale, et il y a le fait qu'Allah soit avec toi de manière particulière. Quant au fait qu'Allah soit avec toi de manière générale, ça signifie qu'il est avec toutes ses créatures, de par sa surveillance, de par sa science, de par sa vue, de par son contrôle, de par sa seigneurie. Ça, c'est le fait qu'Allah soit avec. Yani, c'est général. On appelle ça al-ma'iyatul 'amma. Deuxièmement, al-ma'iyatul khassa, le fait qu'Allah azzawajal soit avec le serviteur en particulier, spécifiquement, ça veut dire qu'en plus de ce qu'on a cité, na'am, tu ajoutes à ça qu'il est avec toi de par son secours. Bi nusrati wa bi ta'yidi wa bi hifdi wa bi kala'ati. Na'am. Wa bi nusrati. Ça veut dire qu'Allah est avec toi, il te soutient, il te protège, il te défend, il t'assiste, il te raffermit, il te guide. Il est avec toi, subhanahu wa ta'ala. Comme dans les versets, la traduction des sens, certes Allah est avec les endurants. Comme, on peut citer aussi, certes Allah avec les pieux, avec ceux qui sont dans l'excellence, la bienfaisance. Na'am. Le fait qu'Allah soit avec toi de manière particulière, ça t'est plus bénéfique, écoute bien. C'est meilleur pour toi, dans ton bas monde et dans ton au-delà, que d'assouvir ton désir et que d'obtenir pleinement ton besoin en désir et en plaisir. Écoutez bien ce que dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. D'avoir Allah avec soi, c'est meilleur que d'avoir obtenu le plaisir dans le haram et d'en avoir joui du début de sa vie jusqu'à sa mort. Du début de sa vie jusqu'à sa mort, il est dans la jouissance dans le haram. Eh bien, al-ma'iyya, ma'iyyatullah al-khassa, c'est meilleur. Que dire alors de donner prévalence à un plaisir qui est incomplet, qui est éphémère et qui dure une infime partie de cette vie-là, qui ressemble plus à un songe vu en rêve ou à une ombre qui disparaîtra. À une ombre qui disparaîtra. La hawla wa la quwwata illa billah. Et rappelez-vous, hadith al-thalatha, le hadith des trois. Na'am asabahum al-matar. Na'am fadakhalu ghara. Fa utbiqat alayhim sakhra azima. Faqala ba'duhum li ba'd, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra. إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Rappelez-vous les hadiths des trois qui étaient en chemin. Il a plu, ils se sont abrités dans une caverne et un gros rocher est tombé et un rocher est tombé à boucher la sortie. Alors ils se sont dit mutuellement, rien ne vous sauvera de ce rocher si ce n'est en invoquant Allah par vos œuvres pieuses. وكان من كلام أحدهم اللهم كانت لي بنات عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين أو من نعم فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفضل خاتم إلا بحقي فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ils ont invoqué Allah Azzawajal avec leurs œuvres pieuses. Et l'un d'eux a invoqué Allah Azzawajal par le fait d'avoir délaissé ce qu'il aimait comme péché pour Allah. Il l'a invoqué par la chasteté. Il a dit, ô Allah, il y avait la fille de mon oncle paternel qui était la personne que j'aimais le plus. Et j'ai voulu la fréquenter dans le péché. Et elle a refusé. Jusqu'à ce qu'elle soit frappée par une pauvreté et une famine. Alors elle m'est venue. Et je lui ai donné 120 dinars. Je lui ai donné 120 dinars à condition qu'elle me laisse commettre le péché avec elle. Elle a accepté. Et lorsque je me suis retrouvé sur elle, prêt à commettre le péché, elle a dit, je ne te permets pas, je ne te permets pas de commettre l'acte, naam, si ce n'est dans le halal. Si ce n'est dans le halal, alors j'ai eu honte de commettre l'acte avec elle. Je me suis levé alors que c'était la personne que j'aimais le plus. Je me suis levé alors que c'était la personne que j'aimais le plus. Et je lui ai laissé tout l'or. Je lui ai laissé tout l'or. Oh Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ta face, libère-nous de ce dans quoi nous sommes. Et le rocher s'est déplacé. Allahu Akbar. Il a fait dua par ses œuvres pieuses dans lesquelles il était sincère. Et une des meilleures œuvres qu'il a, sa meilleure œuvre pour lui, c'était ça. C'était laisser le haram avec la capacité de le faire, avec le besoin, avec le désir intense. Mais il a aimé Allah plus que tout. Alors il a laissé ça pour Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous l'histoire de Youssouf alayhi salam. Il a délaissé le haram alors qu'il était étranger, alors qu'il était jeune, alors que c'était le plus beau de l'époque, alors que c'était une femme noble, alors qu'elle avait le pouvoir, alors qu'elle pouvait lui faire du mal s'il refusait. Alors que ça pouvait lui permettre ensuite d'avoir un haut poste, hein, et avoir énormément d'avantages. Malgré tout cela réuni, hein, qala ma'ad Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalim. Wa laqad hammat bi wa hamma biha lawla ar-ra'a burhana rabbi. Kadhalika linasrifa 'anhu su'a wal-fahsha. Innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a beaucoup de points qu'on a mentionnés parmi les motivations pour délaisser le péché. Notamment, il s'est rappelé des bienfaits qu'on lui avait donnés. Et aussi, il s'est rappelé, il a vénéré Allah Azza wa Jal, il s'est rappelé la grandeur d'Allah. Qu'Allah le voit, qu'Allah le surveille. Na'am. Il a laissé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Allah ensuite l'a élevé. Comment Allah Azza wa Jal l'a élevé. Comment Allah l'a sauvé. Comment Allah l'a comblé. Comment Allah a ramené sa famille. Comment ses frères se sont repentis et ainsi de suite. Celui qui laisse les choses pour Allah, Allah Azza wa Jal lui remplace par meilleur. At-tasi' mashhadu al-murafasa. At-tasi' mashhadu al-murafasa. Wal-mu'ajala. Wahu an yakhafa an yaghifas an yughafisahu. أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذة الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذة الآخرة فيا لها من حسرة ما مرها وما أصعبها لكن ما يعرفها إلا من جربها وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم احذر الحذر الحذر. Le neuvième point, c'est ce qu'on appelle مشهد المغافصة والمعاجلة. المغافصة هي الأخذ على غرة أي بغتة. Le fait, le neuvième point, c'est le fait de témoigner que tu puisses subitement être arraché à ce bas monde. C'est le fait que tu puisses subitement être arraché à ce bas monde. Le fait d'avoir peur de mourir subitement qu'Allah Azzawajal te saisisse brusquement et ainsi la mort s'interpose entre toi et les plaisirs de ce bas monde, entre toi et ce que tu voulais faire dans le futur pour préparer ton au-delà. Ô combien sera forte cette amertume, ô combien sera profonde et grande cette perte, ô combien elle sera dure à encaisser. Mais ne connais l'amertume et la douleur de cette perte, hein, de cette brutalité que celui qui l'a déjà goûté. Que celui qui l'a déjà goûté. Et il fut dit dans des livres anciens, ô toi qui ne peux être à l'abri ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, ô toi qui ne réussis pas à parfaire un plaisir complètement ne serait-ce qu'un jour, gare à toi, gare à toi. Allah nous dit dans le Coran, walikulli ajalin kitab. Chaque mort, elle est déterminée pour un terme. À un terme. Allah nous dit, fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque leur terme arrivera, ils ne pourront en rien repousser ce moment, en rien avancer ce moment. L'homme ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Ça peut être subitement. Il peut être fort et jeune. Naam. Ou il peut être âgé et faible. Le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, était avec Abdullah ibn Omar. Il a mis ses mains sur ses épaules de la sorte, en face, pour avoir toute son attention, pour lui témoigner sa compassion, son amour, et pour lui montrer la force de ce conseil qu'il va lui donner. إذا أمسيت أو بلطو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un simple passant. Prends que les provisions dont tu as besoin pour rencontrer ton Seigneur. Hein? Abdullah ibn Omar a tellement été affecté par ce conseil qu'il disait: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu arrives au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, vis comme si tu allais mourir à chaque instant. Naam. Le prophète, alayhi salatu wa salam, disait, أكثر من ذكر هادم اللذات. C'est-à-dire, elle maute. Mentionnez beaucoup celle qui brise les plaisirs. C'est-à-dire, la mort, apportée par Tirmidhi et Tirmidhi al-Nasai et Ibn Majah, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhi. Donc le rappel de la mort et le fait que ça peut venir subitement, ça doit être une cause qui nous pousse à délaisser le haram. Akhiran ikhwat al-iman, nakhtim bi al-mashhad al-ashir. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusira lana majlisan akhar hatta nutammima ma tabaqa. Al-ashir mashhad al-bala'i wal-'afiyah. Fa inna al-bala'a fi al-haqiqati laysa illa adh-dhunub. ليس إلا الذنوب وعواقبها فالعافية المطلقة هي الطاعة وعواقبها فأهل البلاء هم أهل المعصية فإن عوفيت أبدانهم وإن عوفيت أبدانهم وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم لا حول ولا قوة إلا بالله. La dixième motivation pour délaisser le péché est de témoigner de la difficulté et de la préservation, du malheur et du bonheur, de la maladie et de la santé, et ainsi de suite. D'accord? Du mal et du bien. Ibn Qayyim nous dit, le mal en réalité, l'épreuve et la difficulté en réalité, ça n'est que les péchés et leur finalité. Et la préservation absolue en réalité n'est que l'obéissance d'Allah, n'est que l'obéissance et sa finalité. Donc, les gens qui sont dans les épreuves, les gens qui sont dans le mal en réalité, ne sont que les gens des péchés. Et même si leur corps en apparence est sain et qu'ils ne sont pas malades, ce sont les gens qui sont réellement malades. Hein ? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, les gens du mal, de l'épreuve et de la maladie réellement, ce sont les pécheurs. Même si en apparence on a préservé leur corps. Et les gens qui sont réellement préservés et dans le bien, ce sont les gens de l'obéissance. Même si leur corps en apparence sont malades. Même si leur corps en apparence sont malades. Ô toi qui as un handicap. Ô toi qui as un handicap, qui est aveugle, qui est muet, ou qui boite, ou qui a un problème physique, ou qui a un cancer. C'est pas toi le handicapé. Le handicapé, c'est celui qui désobéit à son Seigneur et qui n'arrive pas à arrêter. Le handicapé, c'est celui que le diable a eu de ses filets et qu'il a enchaîné et qu'il a assujetti à sa servitude. C'est lui le vrai malade. C'est lui le vrai éprouvé. Quant à toi qui es malade, remercie Allah Azza wa Jal. Tu as une meilleure santé que nous si tu es pieux. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit que le jour de la résurrection, quand les gens en bonne santé vont voir ce qu'Allah va donner aux malades, ils auraient espéré dans ce bas monde être découpés avec des scies. Être coupés en deux avec des scies. Tellement la récompense qu'Allah va donner à Ahlul Afiyah sera énorme, sera gigantesque et colossale. Donc bonne nouvelle à toi qui est malade en apparence, mais qui est vivant et en bonne santé par l'obéissance d'Allah. Bonne nouvelle à toi. Barakallahu fikum. Dans nos cours, certains venaient en fauteuil roulant. Je me souviens de personnes qui venaient en fauteuil roulant. Ils assistaient au cours de manière assidue. Hein? Masha'Allah. Et ça me fait penser à un frère à Salat al-Fajr. Tous les jours, il est là. Et à d'autres salawat. Tous les jours, il est là. Il est en fauteuil roulant. Il est en fauteuil roulant. Hein? Il est là tous les jours. Masha'Allah. Allahumma barik. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, certaines personnes de science disaient, إذا رأيتم قال بعض أهل العلم في الأثر المروي إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم والله أعلم. Il fut dit, ou certaines personnes de science disaient, lorsque vous voyez les gens éprouvés, demandez à Allah d'être préservé. La parole s'arrête là. Ibn Qayyim dit, les gens éprouvés sont en réalité ceux qui sont éprouvés par les péchés et se sont détournés de la religion, se sont détournés d'Allah et sont dans l'insouciance. Et certes, ceci est le plus grand, la plus grande des épreuves, le plus grand des maux, même si le terme El Bala, ça englobe celui qui est éprouvé dans la religion, mais aussi celui qui est éprouvé dans le reste, et Allah est le plus savant. Donc, la chose la plus destructrice, la chose la plus délétère sur notre corps, sur notre âme, sur notre cœur, sur notre personne, c'est les péchés. C'est les péchés. Donc, en s'éloignant et en fuyant le péché, on va préserver notre santé. On va préserver notre santé religieuse, notre santé spirituelle, notre santé mentale, notre santé même corporelle. Naam, ihfad Allah yahfadk. Sallam a dit, préserve Allah et te préservera dans ta religion, mais aussi dans ta dunya, dans ton corps, dans ta personne, tes biens, ta famille. Naam, barakallahu fikum. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme le rapporte Ibn Majah authentifié par l'Albani, rahimahumullah, ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إنا أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. Il n'y a pas une meilleure invocation que le serviteur fait pour invoquer son Seigneur que « Oh Allah, je te demande la préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. » Et lorsque Al-Abbas, donc le prophète alayhi salatu wa salam, est venu le voir, il lui a demandé une dua, il lui a dit « Salillah al-afiyah, demande à Allah d'être préservé. » Plus tard, il est revenu. Il lui a demandé encore. Il lui a dit ça. Il est revenu, il lui a dit, Ya Abbas, Ya Abbas, l'oncle du prophète, Ya Amma Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, salillah al-afiyah. Hein? Oh Abbas, oncle du messager d'Allah, demande à Allah d'être préservé. C'est-à-dire, ça là, c'est une grande chose que tu demandes. Naam, comme si tu voulais plus et mieux, mais ça, c'est l'excellence. Tu dis, Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal akhirah. Ça, c'est la meilleure chose que tu puisses demander à ton Seigneur. Et le hadith, ya amma, ou ya ammi, akthiri du'a bil afiya, na'am, est rapporté par Tabarani, rahimahullahu ta'ala, Tabarani, fi mu'jam al kabir, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhim. Ya ammi, akthiri du'a bil afiya. Ça, c'est le conseil du prophète, alayhi salatu wa salam, à son oncle bien-aimé. Et remarquez comment est-ce qu'il s'adresse à lui. Il lui dit, ya ammi, oh mon oncle. Hein? Ça, c'est pour ouvrir le cœur. Ça, c'est pour qu'il accepte le conseil. C'est pour qu'il le retienne. Hein? T'as un enfant qui s'appelle Abdallah. Et toi, tu dis, ya Abdallah, fais ceci ou fais cela. Naam. Mais quand tu veux le toucher, et quand tu veux ouvrir son cœur, sa poitrine, dans le khair, dans le bien, tu dis, ya waladi, oh mon fils, ya bunay, oh mon cher fils, thumma tansah. Hein? Après, tu le conseilles. Comment est-ce qu'il a parlé Ibrahim alayhi salam? Ya abati, ya abati, ya abati. Comment Ibrahim alayhi salam a parlé à Ismaïl? Hein? Ya bunay. Comment Luqman a parlé à son fils? Ya bunay. Et ainsi de suite. Naam. Fa hada uslubu nabawi fi at-tarbiyah wa ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada akhir ma tayassara lana min Allah, ma tayassara lana. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. ونسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة في الدنيا والآخرة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم بعد بيننا وبين معاصي اللهم بعد بيننا وبين المعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وفقنا الله لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.